Salut à tous, bienvenue pour On se dit les choses, le podcast de la REP et de l'éclair du service des sports. Comme disait le poète, c'était il y a 15 jours, un siècle, une éternité. C'était les vacances. Nous voilà de retour pour un nouvel épisode avec autour de la table un quatuor, une armada à ma droite pour commencer, la faucheuse des allées, Jean Forêt.
Bonjour les amis.
Et les ennemis aussi.
Et oui, ne les oublions pas. En face, le truffier du Lot-et-Garonne, Greg Letor. Bonjour Greg.
Bonjour à tous et surtout bonjour à la bulle sanitaire du 15 de France.
Vous ne croyez pas si bien dire, puisqu'à côté de vous se trouve le patient zéro du service des sports, le Christian Saint-Pé. Salut Christian.
Hello everybody, comme on dit à Rudy.
Et enfin, le Claude Besse de la Plaine de Naye, qui est, quand il n'est pas président, il est licencié d'un club. C'est Jérôme Carrère. Bonjour Jérôme.
Bonjour le Béard, bonjour la Soule.
Et après cette dynamique introduction, d'ailleurs moi je suis Vincent Martinelli, bonjour, je me présente aussi parce que je ne l'avais pas dit, après tout, pourquoi m'oublierait-on? Nous attaquons avec l'actualité la plus brûlante, la plus fraîche, celle qui se présente, un certain stade auquel vous avez donné son nom, Christian, car oui, c'est vous, le père du Noustekamp, qui ouvrira officiellement ses portes, qui rouvrira officiellement ses portes ce samedi pour la réception du Havre. L'opération maintien continue.
Plus que jamais. Et il faudrait penser à marquer des points au classement, puisque c'est ça qui manque cruellement, malgré des prestations qui sont vraiment en progrès. On a pu se pencher sur les stats du dernier match à Niort, que vous pourrez découvrir dans l'édition de samedi. Pau a désormais la possession, à trois fois plus de centre que l'adversaire. Des corners, n'en parlons pas. Et malgré tout, il y a cette défaite, donc il y a des choses à corriger. Alors, c'est un petit peu récurrent, il y a toujours ce problème donc d'efficacité offensive, ce problème de concentration défensive.
Le fameux PAM ficelle qui manque.
Ouais, et c'est ajouté un petit peu le manque de réussite, il faut bien le dire. Alors, cette réussite qui a collé au crampon des Palois tout au long de la saison dernière, c'était la réussite du leader. Et là, ma foi, c'est la déveine du promu qui lutte pour se maintenir. Alors, c'est vrai que franchement, il y avait la place à Niort, hein, il y a eu ce poteau, cette barre, et que de regrets encore une fois.
Avec un homme, malgré tout, qui peut faire du bien au Pau FC. D'ailleurs, tendons le micro à Jérôme. Vous l'avez rencontré très fraîchement. Myron George, mais je le dis avec l'accent anglais alors qu'en fait, il est costaricain.
Ouais, ça dit plus Myron George.
Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus séduisant. Dites-nous en quelques mots, Jérôme, vous qui venez de passer un peu de temps avec lui. Bonne pioche.
Déjà, il a marqué son premier but face à Niort. Bon, il n'y avait plus qu'à la pousser au fond, je suis bien d'accord, sur une passe de Sabali. Mais bon, un but en deux matchs, c'est déjà pas si mal, on va dire. Et il démarre. Alors, il a un parcours assez chaotique, on va dire, au niveau européen, parce qu'il a pas mal joué au Danemark.
Puis ensuite, il y a des tampons sur le passeport, si vous m'avez compris.
Ouais, il a fait quelques pays. Alors, il est resté pas mal de temps au Danemark, mais il a fait beaucoup de clubs. En fait, il a un peu écumé le championnat danois. Puis après, il est parti en Suède, en Hongrie, un peu. Il a un peu tout visité. Et donc là, il arrive à Pau, il a 27 ans. Un international costaricien là, qui a 14 sélections, qui n'a pas joué en sélection depuis un an et demi à peu près. Mais ça peut être, je pense, une bonne pioche. Je ne sais pas trop ce qu'en pense Christian, qui est peut-être plus au fait que moi sur l'effectif. Mais en tout cas, il a un profil que le POFC n'est pas forcément, ou peut-être avec Idriss Abba, qui ne joue pas beaucoup, un gars assez grand aussi, assez massif, qui aime bien le contact, il m'a confié. Bon, il a joué dans les championnats nordiques, donc ça envoie du bon, on va dire. Il n'hésite pas à jouer des épaules. Et je pense que ça peut être une bonne pioche pour le POFC. Après, il faudra voir. Bon, il va rester que 6 mois en prêt, donc il faudra voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit relancer sa carrière. Là, il a 27 ans, ça fait 2 ans que c'est vraiment. Il est un peu dans le creux de la vague. Donc, même pour lui, il faut vraiment qu'il, comme il m'a dit, qu'il gagne des minutes, de la confiance et qu'il plante des buts. Donc, pas trop mal pour le POFC.
Très bien. Le POFC, donc, il retrouve le Noustekamp. Il faut espérer qu'il y ait quelques grains de poussière de magie de la saison dernière qui flottent encore dans les lieux. Vous y croyez, ce petit retour à la maison, cette dynamique, vous y croyez, Christian ?
On est obligé d'y croire, sinon la fin de saison va être très très longue. Non, mais disons que là, il y a quand même...
C'était la touche optimiste de cette émission.
Non,
continuez,
non,
pardon.
Non, justement, j'ai dit qu'on y croyait, c'est pas une...
Vous avez dit qu'on est obligé d'y croire.
C'est pas une opinion de façade. Non, mais disons que cette réussite, elle va peut-être quand même finir par tourner. Alors, ce qui est un peu plus embêtant, c'est quand même les problèmes défensifs, parce que autant le premier but de Niortais, il y a un peu de réussite, autant sur le second, quand même, Pau peut plaider coupable. Non, mais bon, on y croit. Alors, il y aura un grand absent, c'est le public. On retrouvera donc quelques supporters dans nos colonnes samedi qui évoquent leur frustration, notamment un membre de la STUP, qui aurait dû fêter ses 5 ans cette année.
4 ans.
Déjà 5 ans. Et non, on y croit parce qu'il y a l'état d'esprit qui est là et qui se maintient. Et encore une fois, il y a des progrès qui se matérialisent dans les stats. Donc les stats parlent. Reste à concrétiser encore une fois. Il faut absolument, comme on dit, l'essentiel c'est 3 points.
Avant un autre duel. Merci Christian. Alors si. ça vaut une pénalité, donc il y aura une petite sanction financière après l'émission. D'autant qu'il y a un autre duel très très serré qui s'annonce. Ce sera pour vous, Greg, mardi, vous recevrez la Berrichonne.
Ah oui, le Dépressico.
Le Dépressico, exactement.
Oui, effectivement, ça sera un grand rendez-vous, un autre match à ne pas perdre. Alors, les derniers matchs à ne pas perdre ont été perdus dans les grandes largeurs. C'était en début d'année, mais c'était une équipe qui avait un autre visage, qui n'avait pas encore reçu l'apport de ses recrues. Diarra, Itai Tinga, Myron George. Donc, on peut espérer un autre visage. Et puis, bon, il y aura quand même le caractère peut-être un petit peu revanchard de ces Castelroussins qui avaient été giflés à domicile au match aller.
Et vous pouvez ajouter au recrue Mamadou Dembélé qui a fait des buts convaincants le week-end dernier à Niort.
Très bien. Samedi, il y aura aussi un autre grand événement d'ampleur planétaire. C'est Jean Fauré qui va nous en parler. Mais si vous allez nous souffler quelques bougies, si j'ai bien compté, il y en aurait même à peu près 80. Bon, vous avez l'air surpris, je sais, bon Jean a passé les 5 premières minutes à remplir sa note de frais pendant l'émission. Donc là maintenant, ça y est, il est au point. C'est l'anniversaire du Prési, plus sérieusement. Et on va donner toute sa place au Prési.
Oui, le Prési, 80 ans, samedi, le 26 février. C'est forcément une date marquante.
Le Prési, Pierre Seyant, je précise, pour ceux qui viendraient de la planète Vulcain.
Oui, le Prési, l'unique Prési, le vrai, le seul que le monde entier nous a envié pendant longtemps. Et donc, à l'occasion de ses 80 ans, qu'il fêtera samedi en petit comité, en famille, du côté de Sainte-Suzanne, le Prési est venu sur Pau cette semaine et nous a ouvert sa grande armoire à souvenirs. Et c'est l'occasion d'évoquer pendant de longues minutes, voire heures, toutes les anecdotes les plus croustillantes de ces 50 dernières années à la tête de l'élan. Et donc effectivement, à partir de samedi, pendant 3 jours, samedi, lundi et mardi, je crois, on va ouvrir nos colonnes au Prési, sur le papier, et puis en vidéo aussi, où il va tout nous raconter, tous ses meilleurs moments, ses plus grandes détresses, ses meilleurs souvenirs en fait de l'élan.
Avec une petite part d'émotion, hein. Enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti quand il s'est exprimé.
Ouais, forcément, un peu ému de ressasser, d'évoquer certains souvenirs qu'il n'avait pas exhumés depuis de nombreuses années. Et aussi la notion forcément du temps qui passe. Il y a 80 ans, sa vie est plus derrière lui que devant lui, évidemment. Et on a senti évidemment le Prési, oui, ému de reparler une nouvelle fois de tout ce qu'il a vécu, de sa vie, hein, puisque l'élan, c'est son club, c'est sa vie, tout simplement.
De l'émotion, de l'autre côté de l'Atlas, Greg, je vous vois lever le doigt.
Moi, je suis curieux de savoir dans quel sentiment il a, justement, par rapport à la situation actuelle de l'élan, situation sportive, au moins déjà assez, assez délicate.
Justement, on en parle un petit peu de cette possible reprise américaine. On lui a posé la question, qu'est-ce que ça lui fait, lui, le Prési, l'Orthésien, de voir que son club pourrait être repris par des Américains. Eh bien, il s'en satisfait, parce qu'il a conscience que le club est passé au bord de la disparition au printemps dernier, et que s'il n'avait pas eu le printemps dernier, elle aurait eu lieu ce printemps ou le suivant, parce que le club était en très mauvais état jusqu'à ce que la mairie réinjecte des fonds et devienne actionnaire majoritaire. Donc le Prési, ce qu'il veut, c'est que voir son club toujours exister de nouveau. Et la seule solution, c'est une reprise par des investisseurs, alors qu'ils soient américains, qu'ils soient landais, qu'ils soient, peu importe d'où ils viennent, mais le but pour lui, l'essentiel, c'est que son club continue de vivre.
Un autre club, je me tourne vers vous, sur lequel il y a une annonce cette semaine, c'est un départ, c'est celui de Conrad Smith qui a quitté la section. Enfin, c'est plus qu'une annonce, c'est une officialisation qui ne vous a pas trop surpris, j'imagine, Greg, parce qu'il avait un peu disparu des écrans radar ces dernières semaines.
Non, on savait qu'il était rentré en Nouvelle-Zélande. Son retour était initialement annoncé pour le mois de février, et puis on ne voyait rien venir. On ne le voyait plus intervenir, on ne le voyait plus être évoqué, même dans les discussions par rapport à la réorganisation sportive avec l'arrivée de manager Sébastien Picaronis. C'est bien une légende qui s'en va, qui est partie un petit peu par la petite porte, discrètement, sans les adieux qu'il aurait mérité. Et quelque part, c'est à mon sens un petit peu regrettable, parce que quand on regarde dans le rétro des derniers joueurs partis, on s'aperçoit qu'il y a Ben Smith, on s'aperçoit qu'il y avait l'Australien Ben Moen, Stephen Armitage, Carl Lehmann, et beaucoup de joueurs comme ça qui ont quand même contribué à pérenniser la section en top 14. Sont partis sans adieu, sans aide d'honneur, sans...
Tambour du trompette.
Voilà, de fa... c'est voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme héritage derrière? C'est la question qui peut se poser.
Et qu'on va essayer de lui poser à lui-même. Section toujours, là c'est Jérôme qui va intervenir, puisqu'il était au chevet de la section samedi dernier contre Toulon. Oui, c'est chez moi cette larme, Jérôme. Non, plus sérieusement, c'était vraiment la grosse tuile qui arrivait au mauvais moment, juste avant la coupure. Enfin bref, on n'en voit pas le bout. Hein.
Ouais, franchement, ces dernières semaines, il y a pas mal de grosses tuiles, en fait. C'est un peu ça le problème. Si c'était la seule grosse tuile qui nous tombait sur la tronche, ça irait. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, c'est pas trop la joie. Depuis cette victoire à Lyon, on pensait qu'il y avait peut-être une dynamique qui s'était un peu enclenchée. Et puis, comme depuis le début de la saison, finalement, la section n'arrive pas juste à avoir deux résultats positifs consécutifs. Donc là, face à Toulon, ça s'est concrétisé par une bonne première mi-temps et pas mal d'occasions où ils la mettent pas au fond, comme on dit désormais, même s'il n'y a pas de filet. Et deuxième mi-temps où il s'est rien passé en fait, jusqu'à une petite révolte sur la fin qui permet d'accrocher un bonus défensif. Mais le problème, c'est qu'il va falloir quand même plus à cette section qui doit aller voyager à Castres, qui doit recevoir Bayonne après être allé à Bordeaux la semaine prochaine. Donc en gros maintenant ça va être quand même, on arrive dans la zone de vérité là, il reste 8 matchs, donc à force de le dire, au bout d'un moment, à force de dire que ça va brûler, les Palois rapprochent les doigts tout doucement du feu, au bout d'un moment ça va venir.
Avec en plus un double effet qui se coule, donc ils ont perdu, et on a appris 2 jours après qu'il y avait un cas positif au Covid à Toulon, ce qui fait que en plus du bonus, les Palois ont peut-être gagné autre chose de ce match. Plus sérieusement, est-ce qu'on a des nouvelles? Il s'était mis un peu à l'arrêt cette semaine, je crois. C'était ça l'idée, pour circonscrire tout foyer.
Oui, tout à fait. Principe de précaution appliqué une nouvelle fois. Comme avec Baptiste Pesanti, qui avait été prié de rester chez lui au retour de Marcoussi, prié de ne pas venir assister et encourager ses copains au hameau contre le RCT. Ils ont décrété, après discussion et échange avec le staff médical, la section paloise, d'arrêter les entraînements jusqu'à jeudi au moins, et en attendant les résultats de tests qui pour l'instant n'ont pas encore été communiqués. Donc si tout se passe bien, retour à l'entraînement espéré vendredi.
Donc on peut dire qu'ils s'entraînaient avant pour arriver à ce qu'ils produisent en match, donc il y a des entraînements.
Jean, tu es bien sévère. Tu es bien sévère.
Baptiste Pesanti, oui, qui est un peu le grand perdant cette semaine aussi, parce que lui, donc, c'est la victime collatérale de la bulle percée de Marcoussi, qui a un petit mot à dire sur cette situation pour le moins ubuesque.
Alors il avait été renvoyé après avoir préparé les deux premiers matchs du tournoi, après avoir assisté au stage de préparation à Nice, il avait été renvoyé sans avoir joué, non convoqué pour le troisième match du tournoi contre l'Écosse, ce qui pouvait paraître un peu étonnant. Et il a été finalement rappelé suite à plusieurs cas positifs, dont celui de Taofi Fenua. Et puis, avant d'intégrer la fameuse bulle, entre guillemets, il a été invité à repasser des tests qui se sont, malheureusement pour lui, révélés positifs. Donc, il a raté l'occasion d'avoir une troisième sélection, d'avoir une chance pour une troisième sélection. Mais finalement, il n'a peut-être pas raté tant que ça, puisque des nouveaux cas ont été détectés après encore au sein du 15 de France. Et à l'heure où je vous parle, c'est vers un report qu'on se dirige.
Donc même aussi par rapport à section Toulon que Swan Rebadge, du coup, qui devait remplacer initialement Baptiste Pesanti, 2 heures avant le match Toulon section, la FFR a fait un communiqué disant qu'il faisait partie des cas contacts puisque Toulon avait déjà eu des cas la semaine d'avant. Mais malgré tout, il a quand même été aligné d'entrée. Enfin, c'était une situation complètement hallucinante et donc au final, on se retrouve avec cette espèce de chassé-croisé. Effectivement, Baptiste Pesanti qui n'y est pas et Swan Rebadge non plus au final. Donc c'est un peu du grand n'importe quoi quand même depuis 10 jours.
Du grand n'importe quoi, ce qui m'amène fort logiquement à me tourner vers vous, Jean. Puisque la LNB, c'est un peu comme les réunions d'archevêques, quoi, ou je sais pas comment on dit, de cardinaux, pardon, excusez-moi Christian, pour les élections de pape. La fumée blanche est sortie, il y aura bien une fin de saison en Jeep Elite.
Oui, il y aura, a priori, il a été décidé enfin, on va dire, elle a été prise la semaine dernière, la décision, on était donc le 22 février, une décision qui aurait pu être prise début janvier, donc avec un mois et demi, 2 mois de retard, donc la Ligue, après avoir consulté tous les présidents, a décidé de terminer la saison, au moins la saison régulière, c'est-à-dire jouer entre 23 et 26 matchs pour certaines équipes, comme Boulazac, en 3 mois, voilà, pour essayer d'avoir un classement, de pouvoir reléguer des équipes, en faire monter d'autres, peut-être, et décerner un titre de champion, peut-être sous la forme d'un Final 8 à suivre, donc un Final 8 qui aurait lieu sur un site unique, l'espace d'un week-end, un petit peu formule Leaders Cup à partir du 15 juin. Sans les internationaux, qui seront libérés avant. Donc encore beaucoup de lisibilité, de clarté de la part de la Ligue nationale.
Et dans la série du grand n'importe quoi, je voudrais faire une petite parenthèse concernant le rugby féminin, puisque ce week-end viennent de se jouer les derniers matchs de la phase régulière, et une pensée pour les joueuses de Bobigny,
qui nous écoutent d'ailleurs,
qui nous écoutent absolument, qui n'ont pas pu jouer contre Grenoble. Grenoble qui était dernier avec 0 points. Les joueuses de Bobigny s'étaient imposées 35-0 à l'aller, donc elles pouvaient quand même prétendre un bonus offensif, ce qui les qualifiait pour le play-off. Et le règlement du rugby a fait qu'il y a eu une péréquation et il leur a manqué 0,8 points. Elles se retrouvent en play-down. Donc, pour reprendre l'expression de Jérôme, c'est du grand n'importe quoi. On peut aussi féliciter la Fédération française de rugby qui avait réaménagé le calendrier sans aucune possibilité de date de repli.
Arrêtez-le !
Et voilà, à quoi on en arrive ! J'en avais terminé.
L'antenne, c'était un outing de Christian, là, c'est le coup de gueule. Le Jean Mérand du service des sports, ça y est, c'est dit, il fallait que ça sorte. Merci pour la transition. Donc, Bobigny, États-Unis. Je reviens au basket, Jean. Parce qu'il y a quand même. Désolé, hein, on parle beaucoup d'Américains à l'élan Bernay, mais donc il y en a un sûr qui arrive, un deuxième qu'on attend. Joueur.
Ouais, joueur, ouais. Donc un qui a signé, qui doit arriver demain ou samedi, c'est CJ Williams, c'est l'ailier découvert, on va dire, entre guillemets, à Dijon il y a 5-6 ans, et qui en suivant a fait un petit peu carrière à NBA du côté des Clippers. Un vrai ailier athlétique, défenseur, gros caractère aussi, donc qui a signé, qui va renforcer l'équipe. Et on attend donc un meneur de jeu. A priori, je dis bien a priori, il s'agirait de Tony Rotten, hein, celui dont on a parlé dans nos colonnes avant-hier. Alors là, c'est vraiment un gros joueur référencé NBA, qui était meilleur marqueur des Sixers de Philadelphie en 2014, je crois, 2014-2015, qui a fait deux saisons et demie parfaites à NBA, jusqu'à se péter le genou, se faire les ligaments en 2015. Mais depuis, il a refait surface, on l'a vu en Europe, et notamment l'an dernier en BCL du côté de Vauclavec. Il avait marqué 23 points contre l'élan notamment. Donc voilà, donc c'est ce joueur qui serait éventuellement attendu du côté de l'élan. On ne sait pas où il en est, s'il a son visa, s'il n'a pas son visa, si c'est signé, si c'est pas signé, mais c'est le choix numéro 1, et normalement on devrait avoir des nouvelles d'ici demain.
Est-ce qu'on peut voir la patte des futurs investisseurs américains dans ce recrutement made in NBA?
Absolument pas, mon cher Jérôme, même si Tony Rotten, certains ont remarqué qu'il était né à Seattle. Seattle qui est le lieu de résidence, on va dire, de CSG, le consortium Counterpoint Sport Group, qui est basé à Seattle, ainsi que Jamal Mashburn, Greg Hess, etc. Donc il est de Seattle, mais c'est le pur hasard. Non, ce qu'on peut voir, effectivement, on peut s'interroger sur le fait que l'élan puisse recruter des joueurs aussi référencés, donc ce qui veut dire aussi cher, entre guillemets. Mais après, ça a pondéré, c'est juste pour 3 mois. Donc, c'est plus facile d'attirer des gros morceaux sur 3 mois que sur 10 mois. On est dans une période avec le Covid où certains joueurs ont du mal à se caser. Enfin, voilà, c'est assez baroque comme situation. Et ça permet de tenter des coups de ce style avec, en leur promettant une enveloppe, je ne sais pas, entre 15 et 20 000 euros, j'imagine, par mois. Ce qui est très peu pour un Tony Rotten qui avait un contrat de plus de 2 millions de dollars la saison il y a encore 3 ans. On fait le calcul, c'est vraiment pas pour l'argent s'il vient à l'élan, c'est pour se relancer certainement avec peut-être l'NBA encore à l'esprit ou un gros club européen pour l'an prochain. Gros club européen qui pourrait être l'élan Bernay.
Et pourquoi pas ? Gros club européen, il y en a un qui arrive vite pour l'élan Bernay parce qu'ils vont rattaquer par la face nord, enfin la face sud-est. Ils vont aller à Monaco, donc ils auront la chance de pouvoir aller boire un café en terrasse, a priori. Mais par contre, ils risquent de manger chaud quand même.
Oui, ils risquent de manger chaud, confinés dans leur hôtel. Effectivement, rattaquer à l'extérieur, c'est peut-être pas mal. Monaco, si l'élan est au complet, c'est-à-dire avec les deux recrues attendues, voire une troisième, attention, on n'est pas à l'abri d'avoir d'ici le 28 février, c'est samedi, date de fin des transferts, sauf pigiste médical, on pourrait encore avoir l'arrivée de l'intérieur, Cotonou. Ça, c'est aussi dans les tuyaux, dans les cartons. C'est enfin
c'est le staff, je sais, se penche aussi là-dessus, sur ce sujet, même si le poste intérieur est bien fourni. Est-ce qu'ils vont se séparer, prêter Ousmane Dramé ou pas, où en est Nicolas De Jong vraiment, on ne sait pas trop. Donc voilà, donc il y a pas mal d'interrogations, mais il faut aller vite, puisque le 28, c'est samedi, et que le suivant, effectivement, à Monaco, une reprise délicate, difficile pour l'élan, qui va après va avoir Orléans au Palais, là il ne faudra pas se tromper, et enchaîner, etc., les matchs. On rappellera qu'ils ont perdu leurs 6 ou 7 derniers matchs, je ne sais plus, qu'ils sont 16e ex aequo au classement, et qu'ensuite il ne faudra pas traîner, il va falloir aller chercher d'abord les victoires pour assurer ce maintien.
Et surtout ne pas aller manger des gaufres à Monaco.
Oui, surtout ne pas aller manger des gaufres à Monaco, ou ne pas crever la bulle. Pas de taxi les enfants, on reste à l'hôtel, on est sage, si vous nous écoutez. Un week-end au cours duquel on pensera aussi aux Lonçoises qui seront du côté de Montpellier. Quand je disais qu'on pouvait manger chaud à Monaco, que dire de Montpellier
On a parlé des filles de Bobigny, Christian, déjà.
Absolument, Jean. Pas d'inquiétude.
Oui, donc les Lonçoises qui vont attaquer leur play-off. On dit des play-offs, mais elles sont déjà en élite, donc on va dire leur phase finale plutôt. Oui. Du côté de Montpellier, ce sera ensuite Blagnac et puis Rennes à la maison. Il y aura aussi le BHB demain soir, on ne les oublie pas, qui reçoivent Angers. Et ce qui me permet d'ouvrir, car le chronomètre tourne, la dernière page la plus attendue, mais qui sera aussi assez rapide, celle des pronostics. Parce que pour pronostiquer des matchs, ce week-end, il y en a un, en ce qui nous concerne. Le Pau FC contre le Havre.
Pour le rugby, pronostique une victoire avec bonus de Montpellier. Hein.
Ah,
sans faire ombrage aux Lonçoises. Oui. L'objectif pour les Lonçoises sur ces trois prochains matchs là de play-off, c'est de ne pas avoir de blessés. Parce que franchement, reprendre avec quatre matchs à la suite... avec un tel calendrier, ça va être coton.
Coton.
C'est
à Bobigny pour
donner de la force. C'est ça. Alors j'essaie de gagner du temps, hein, vous l'avez remarqué, pour le pronostic du POFC. Bon, une victoire, parce que je vais être cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, le maintien, on y croit, c'est maintenant. Hein, le maintien, c'est maintenant, comme dirait l'autre.
Parce que c'est notre projet, je le signale.
C'est notre projet. Alors, bon, victoire, le Havre ne prend pas beaucoup de buts, 1-0 pour le POFC.
Greg.
Ça sera 2-0 avec un but de Armand, évidemment, et puis un but de Itaitinga sur une passe de Baptiste.
C'est développé, 2-0, précis, 1-0, précis, c'est précis. Jérôme.
Moi, je vais dire 3-1. Oui,
ça flambe.
Le catch-up, quoi. Les buts catch-up. Les buteurs, bah, évidemment. My Iron Man, un petit but. My Ranger, un petit but. Un petit but pour qui, tiens, un petit but? Pour Romain Bayard, tiens. Petit but, il sera là ou pas, Romain Bayard?
C'est la grosse. En hommage à son sosie officiel, voilà. Greg
Le Thor. En tant que passe décisive d'Antoine Baptiste.
Et un troisième but de Baptiste, tiens.
Et voilà. Ouh là là, il y a du.
Moi, j'ai pas donné de buteur, je dirais le jeune Cher Sabali.
Ça vaut cher.
Et moi, je vous annonce un joli deux partout, un très beau match deux partout. Et par respect pour leur famille, je tairai le nom des buteurs.
Vous êtes bien placé, pourtant vous habitez à une portée de shoot à 3 points du Nouste-Camp, vous serez aux premières loges. Eh bien les amis, je vous remercie de votre sagacité, de votre mauvaise foi et de votre expertise. Je vous donne rendez-vous très vite la semaine prochaine pour la suite de ce podcast. D'ici là, un bon week-end, un bon couvre-feu et portez-vous bien. Au revoir tout le monde.